Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Alexandre Claudet, président d'Estiam. Alors Estiam, c'est anciennement Foncia Pierre Gestion. Elle fait partie des acteurs historiques des SCPI. Elle gère aujourd'hui environ 1,2 milliard d'euros au travers de 5 SCPI. Alexandre Claudet, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors je l'ai dit, vous gérez plusieurs véhicules qui interviennent peu ou prou sur l'ensemble des secteurs immobiliers. Depuis la crise sanitaire, on le sait, certains ont résisté, d'autres ont été confrontés à des difficultés plus ou moins importantes. Comment se portent aujourd'hui ces différents secteurs? Commençons par exemple peut-être par celui des bureaux.
Très bien, je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de bureaux sans évoquer le télétravail. Et c'est vrai que celui-ci constitue une interrogation majeure. La crise sanitaire et les différents confinements ont révélé à certains que finalement le télétravail c'est quelque chose de possible. Et il y a peu de managers ou de collaborateurs aujourd'hui qui ne peuvent pas se rendre compte que ce télétravail est possible. Donc des digues ont sauté. Mais c'est un phénomène qui n'est pas nouveau puisqu'il avait été initié avant la crise et finalement on a connu une forme d'accélération.
Donc surtout qu'on a pensé à un moment qu'on passerait à 100% en télétravail. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un retour au bureau qui s'achève. Mais alors, quelles conséquences pour les actifs de bureau qui ont quand même souffert en termes de transactions et en termes de valorisation?
Alors effectivement, en termes de demandes placées, c'est-à-dire de location, on se rend compte que l'année 2020 a été une année assez creuse, même si on s'aperçoit qu'en 2021, on a une petite reprise. Alors qu'en termes de transactions, le marché est resté dynamique et le niveau 2020 se situe à peu près dans la moyenne des 10 dernières années. Ce qu'on constate quand même, c'est des comportements différents des entreprises. C'est-à-dire les plus grosses entreprises avec des collaborateurs dans des back-office, etc. Aujourd'hui, ont des réflexions importantes pour essayer de réduire un petit peu de surface et mettre en place donc le télétravail avec du flex-office. Parce que le télétravail sans flex-office, c'est-à-dire sans poste attaché pour chacun, ça ne fait pas gagner beaucoup de mètres carrés. Alors qu'à l'opposé, les PME souhaitent plutôt faire revenir leurs salariés. Il y a plusieurs études qui sont sorties. Et on voit à 75%, les patrons de PME sont plutôt opposés au télétravail. Donc deux mondes qui s'affrontent. Avec d'un côté des PME qui sont assez présentes sur ce marché du bureau, avec même une augmentation des surfaces prises à bail, parce que les patrons de ces structures se rendent compte que pour attirer leurs collaborateurs, il faut mettre en place des espaces conviviaux, des espaces collaboratifs. Donc on est passé, je crois, à peu près de 150 à 170 mètres carrés en moyenne. Et d'un autre côté, des zones qui sont un petit peu plus compliquées. Je penserais par exemple à la Défense, avec des grands plateaux qui sont encore vides aujourd'hui, et les mois qui viennent nous indiqueront comment les choses vont évoluer. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le télétravail ne va quand même pas provoquer des baisses de surface extrêmement importantes. Et c'est, comme d'habitude, les immeubles les plus obsolètes ou les moins bien situés qui pâtiront. C'est-à-dire qu'on commence à ressentir le phénomène...
Mais on voit des baisses de prix déjà donc, sur ce type de surface?
Alors, il semblerait effectivement, sur les compilations de transactions effectuées ou au dire des experts, que certains immeubles moins bien situés verraient des baisses de prix. Je pense, par exemple, à certaines zones de la deuxième couronne parisienne.
On va parler on y reviendra tout à l'heure. Parlons juste un mot du commerce. Les commerces, c'est une autre problématique mise en exergue par la crise sanitaire. C'est un secteur sur lequel vous êtes présent. Alors, de façon importante.
C'est un secteur sur lequel nous sommes présents de manière significative. Je crois qu'effectivement, on peut nous considérer comme des spécialistes du commerce. Alors, c'est un secteur qui également a fait parler de lui au moment de la crise sanitaire, puisque on a assisté à des confinements, donc des fermetures et le développement du e-commerce. Mais là encore, je dirais que c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Le e-commerce, ça fait maintenant 5 ou 10 ans qu'on en parle. Et là encore, je pense que c'est plutôt un révélateur, parce que si plus de consommateurs se sont mis à commander via Internet, en même temps, il y a pas mal de commerçants et des petits commerçants qui se sont mis également à avoir une offre sur Internet et qui trouvent un nouveau vecteur de développement. Un peu comme certains grands groupes qui étaient 100% physiques se sont mis, ont racheté en fait des structures pour aller sur Internet et vice-versa. On s'aperçoit que les deux dimensions digitales et physiques sont complémentaires.
D'accord, on va parler juste un mot de l'hôtellerie, parce que vous avez aussi de l'hôtellerie. Est-ce qu'on va assister à une recovery dans le secteur, rapidement ?
Alors, l'hôtellerie, effectivement, c'est peut-être le secteur qui a été le plus touché par la crise, puisque, ce qui est paradoxal, s'il n'y a eu aucune fermeture d'hôtellerie, il n'y avait plus de clients, que ce soit tourisme ou professionnel. Avec des interdictions de déplacement, avec des couvre-feux, avec des confinements, ces établissements étaient vides et ont dû fermer.
Oui, mais aujourd'hui, est-ce que ça repart et comment on gère ce type de situation en tant que propriétaire de murs d'hôtels ?
Alors c'est un secteur effectivement qui repart. Hein. On s'aperçoit que les indicateurs là sur cette deuxième partie d'année sont extrêmement positifs. Alors on a des établissements d'ailleurs qui sont très très bien comportés. Tous les établissements sur des lieux de villégiature ont passé un été merveilleux. C'est plus compliqué dans certaines grandes villes. Hein. Si vous prenez Paris par exemple, on a plus de difficultés. Mais c'est un secteur qui repart, qui était en pleine expansion avant cette crise du Covid, et qui va redémarrer, sur lequel on est extrêmement positif. Donc aujourd'hui, le souci, c'est plus de traiter encore à court terme quelques problématiques de loyer sur la période passée que des questions sur les perspectives à venir.
Donc les locataires repayent. Alors je voudrais qu'on parle maintenant un peu des différentes stratégies de vos SCPI. Alors il y en a une notamment que vous mettez plus en exergue aujourd'hui, c'est Placement Pierre, qui est une SCPI de bureau. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Alors Placement Pierre, oui, c'est une diversifiée avec une majeure bureau, elle a 80% de bureau. Sa particularité, c'est d'avoir été constituée au fil du temps sur des immeubles, sur des petite surface, en tout cas à comparer à la moyenne des SCPI. Nous avons une surface moyenne de l'ordre de 1000 à 1100 m². La moyenne du marché, c'est 3500 et pour certaines, c'est beaucoup plus. Ce qui veut dire que nos locataires, ce sont des PME. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, le marché de la location est beaucoup plus dynamique sur les PME que sur les grands groupes, parce qu'on a des chefs d'entreprise qui veulent voir sur place leurs collaborateurs.
D'accord, donc en fait, on peut la qualifier d'un mot à la mode, c'est une PME, c'est une SCPI résiliente sur le secteur des bureaux. On peut voir ça comme ça. Et en termes de performance, en quoi elle se distingue de ses concurrentes ?
Alors en termes de performance, il faut savoir qu'on a un dividende récurrent qui est stable depuis plusieurs années. Il l'a été l'année dernière, il le sera cette année. Et puis on s'est rendu compte en analysant certaines bases de données telles que celle de Cantalis que cette SCPI a une faible corrélation par rapport aux autres SCPI de même nature, que ce soit autres SCPI de bureaux ou diversifiés du marché. Et ça, dans la composition d'un portefeuille de SCPI, c'est quelque chose de très important. Parce que si vous voulez diminuer un maximum le couple rendement-risque, il faut avoir des SCPI qui se comportent différemment. Et cette faible corrélation fait de Estiam Placement Pierre, en fait, une SCPI qui devrait être dans presque toutes les allocations.
Oui, en termes de diversification, ça paraît intéressant. Un petit mot juste sur les autres SCPI, en termes de collecte, de rendement ou de perspective ?
Alors, vous l'avez signalé tout à l'heure, nous avons des SCPI de commerce, d'hôtellerie, aussi des SCPI diversifiés. Une SCPI notamment qui a un patrimoine parisien qui se comporte extrêmement bien et dont les performances, que ce soit les valeurs de part ou les dividendes, vont augmenter. Et à l'opposé, je dirais, nous avons une SCPI de l'hôtellerie ou une SCPI de commerce sur lesquelles c'est plus dur de collecter aujourd'hui. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est aujourd'hui qu'il faut aller se positionner sur des commerces ou sur des hôtels quand il y a eu quelques ajustements de prix. Donc, je suis assez confiant parce que je pense que les associés, les investisseurs
sont souvent à contre-courant. Ouais, vous avez parlé justement de la distribution des CPI. Il y a la SPIM qui a publié récemment une étude sur l'origine des sommes distribuées en 2020. Alors, on va la faire courte, mais grosso modo, les CPI ont largement plus puisé l'an dernier dans leurs réserves qu'auparavant. En gros, leurs loyers annuels ont représenté 90,5% des sommes distribuées et les réserves 9,5%. Ça vous inspire quoi, le fait que voilà, les CPI ont pioché dans leurs réserves pour maintenir les résultats ?
Bah écoutez, la première chose, c'est que les mécanismes de réserve fonctionnent bien et que finalement, on se rend compte que sur une année difficile, les CPI arrivent à maintenir des performances correctes parce qu'elles ont cette possibilité
C'est pour ça qu'on a prévu ce dispositif précisément.
Voilà, oui. Exactement. Après, ce que ça m'inspire également, c'est que finalement, 10%, aller chercher 10% de dividendes ailleurs, c'est quand même pas négligeable. Donc ça réduira peut-être, pour certaines, en tout cas, les capacités de distribuer cette année. En ce qui nous concerne, chez Estiam, nous avons donc 5 SCPI. L'année dernière, 4 ont distribué un dividende composé à 100% du résultat de l'année, et la cinquième à hauteur de 94%. Donc nous avons préféré adopter une position assez prudente dans le cadre d'une crise dont on ne mesurait pas vraiment la durée. Et je pense que cette année, on sera heureux, si c'était nécessaire, de pouvoir puiser dans nos réserves.
Donc en fait, c'est la vraie question. Est-ce que les CPI, dans les mois et les années à venir, vont être capables de reconstituer justement ces réserves, pour celles qui en ont distribué en tout cas ? Votre sentiment ?
À court terme, ça restera compliqué. Après, c'est un modèle qui a été retenu pendant des années, et les CPI ont eu cette capacité à constituer ces réserves. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a plusieurs types de réserves. Le report à nouveau, par exemple, qui est du dividende qui a déjà été fiscalisé mais qui n'a pas été distribué. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera un petit peu plus compliqué de reconstituer du report à nouveau. En revanche, en termes de plus-value, là, il reste pas mal de potentiel.
D'accord. Écoutez, donc c'est un aspect positif pour l'avenir des CPI. Alexandre Claudet, merci beaucoup.
Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.